Alors, nous devons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et je propose Monsieur Lionel Muret. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je vous fais état des procurations assez nombreuses. Madame Winkelmann-Christine a donné procuration à Sylvain Gilles. Antonio Miga donne procuration à Hervé Auriac. Émilie Lagier donne procuration à Jean-Michel Marlot. Fanny Biscara me donne procuration. Jean-François Mengui donne procuration à Marlène Thibault. Michel Payalonga donne procuration à René Sauvera. Et Martine Seller donne procuration à Laurent Arcusé. Je précise que pour Fanny Biscara, c'est parce qu'elle nous représente à l'Assemblée Générale des jeunes agriculteurs. Je vous fais état des divers remerciements que nous avons reçus. En particulier, la famille Bocquet nous remercie pour les marques de sympathie et d'amitié que nous leur avons témoignées lors du décès d'Arnaud. De même, Coralie et Rodolphe Larosa nous remercient des marques de sympathie et d'amitié témoignées lors du décès de leur maman, Madame Mireille Larosa. Les familles Castellarin et Paolucci ont été très touchées par notre présence, notre envoi de fleurs et messages de réconfort et d'amitié témoignés lors du décès de Guylain Castellarin. Madame Madeleine Saint-Julien et la famille ont été très touchées par les marques de sympathie et d'amitié témoignées lors du décès de Monsieur René Saint-Julien. La famille de Hélène Kio a également été, nous remercie pour les marques de sympathie et pour notre présence lors du décès, donc lors des obsèques d'Hélène Kio. La famille nous remercie pour notre courrier, notre présence et marque de sympathie lors du décès de Paul Boissy-Corral. Voilà. Vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques ? Apparemment non. Donc je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Nous passons à l'ordre du jour proprement dit, mais au préalable, je vous demande de bien vouloir accepter l'ajout de deux dossiers supplémentaires. Premier dossier complémentaire, redevance d'occupation du domaine public. Et donc, voilà, c'est juste en fait quelque chose à rectifier. Et deuxième dossier, motion de soutien au personnel du centre hospitalier d'Orange. Donc je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. Et nous abordons le dossier numéro 1, vidéoprotection programme 2017, demande de subvention. Rapporteur, Monsieur Jean-Luc Dacosta.
Vidéoprotection, programme 2017, demande de subvention. L'article 5 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance destiné à favoriser les politiques locales de prévention de la délinquance. Le développement de la vidéoprotection constitue la principale priorité d'intervention du FIPD. Les projets d'installation de caméras sur la voie publique, création ou extension par les communes constituent des investissements éligibles. Par ailleurs, dans le cadre de ses compétences, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur entend participer à la mobilisation nationale contre l'insécurité et la garantie des libertés publiques dans le cadre d'un plan régional pour la sécurité intérieure, PRSI, et par la mise en œuvre d'un fonds de soutien aux forces de sécurité, F2S. Ce dispositif a pour objectif d'aider les communes et les EPCI a créé ou développé leur système de vidéoprotection. Dans le cadre de sa politique de sécurité, la ville de Camaret-sur-Aigle souhaite poursuivre sa politique de prévention contre les actes de délinquance et augmenter ses capacités de vidéosurveillance. La municipalité envisage l'extension de son parc existant 11 caméras, dont 3 fixes, avec l'ajout de 4 caméras de vidéoprotection supplémentaires. Ce projet viendra en complément de l'extension déjà opérée en 2014, 3 caméras supplémentaires, et de la modernisation du poste et du serveur de vidéoprotection réalisée en 2016. Pour réaliser ce projet, il est nécessaire de fournir, d'installer des caméras et d'adapter les équipements techniques d'exploitation actuels. Il est ainsi prévu l'installation nouvelle d'une caméra de type DOM 360 degrés sur le cours du Levant, intersection cours du Midi, chemin battu, en surplomb, balayant la voie de circulation et les commerces de la part et d'autre du carrefour. D'une caméra de type DOM 360 sur la place Saint-Andéol, en surplomb des places de stationnement de la voie de circulation en double sens et du groupe scolaire de l'école Saint-Andéol. D'une caméra de type DOM 360 à proximité du rond-point des Amandiers, en surplomb à l'intersection avenue du Mont-Ventoux, avenue Louis Pasteur, avenue du Général de Gaulle et le chemin battu, balayant les accès de circulation, le stationnement, les commerces et le groupe scolaire les Amandiers. Une caméra fixe intersection avenue Jean-Henri Fabre et chemin de la Chapelle, en surplomb sur la voie de circulation, balayant les accès de circulation et de stationnement sur ce secteur. Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service sur les sites concernés et seront réalisés en 2017. Considérant le projet de la municipalité en matière de développement de la vidéoprotection, vu le montant des travaux estimé à 39 546 euros hors taxes, considérant que ce projet est éligible à un taux de subvention de 40% du montant total hors taxe au titre du FDIP et de 30% du montant total hors taxe au plan du régional de sécurité intérieure, 20% si le projet bénéficie du financement du FDIP, vu le plan de financement prévisionnel de l'opération, plan de financement prévisionnel avec FPDIT, montant hors taxe, État FPID 30%, 15 810 euros. Région PACA, PRSI, 7 909 euros. Commune, 15 819 euros, 40%. Total, 39 546 euros, 100%. Plan de financement prévisionnel sans FIDP. Montant hors taxe. Région PACA, PRSI, 11 864 euros. Commune, 27 682 euros. Total, 39 546 euros, 100%. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus, de solliciter auprès de M. le préfet de Vaucluse une subvention à hauteur de 40% du montant hors taxe des travaux, soit 15 818 000 euros, au titre de fonds interministériels prévention de la délinquance pour le projet d'extension de son système de vidéosurveillance, de solliciter auprès de M. le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une subvention à hauteur de 30% du montant hors taxe des travaux, soit 11 864 euros. Ou en cas d'éligibilité du projet au titre du FDIP, de 20% du montant hors taxe des travaux, soit 7 909 euros, au titre du plan régional de sécurité intérieure pour le même projet. De dire que les travaux seront réalisés en 2017, d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Vas-y.
Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que ça marche? Parfait. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai plusieurs questions concernant donc, cette délibération. Concernant le plan de financement prévisionnel, donc concernant le fonds interministériel donc, pour la prévention de la délinquance, ce financement, cette subvention et ce financement interviennent de la part de l'État dans le cadre de la mise en place de programmes d'action en termes de délinquance, de violences faites aux femmes et des actions pour améliorer la tranquillité publique. Donc je voulais savoir quelles étaient les actions que vous alliez mener, qui menait ces actions et comment ces actions allaient être contrôlées par rapport à la demande à ce dossier. Deuxième question, qui est en rapport toujours avec ces demandes de subvention, il est précisé dans l'appel à projet que le bilan des des actions qui sont obligatoires pour bénéficier de cette subvention doivent être présentées pour avoir de nouvelles subventions. Donc je voulais savoir connaître le bilan donc depuis 2014 de ces trois actions à mettre en œuvre. Ensuite, concernant la demande de subvention auprès de la région PACA, donc puisque la région PACA a mis en place un plan régional de sécurité intérieure, mais quand on lit le document, le calendrier pour l'appel à projet 2017 a été lancé le 30 novembre 2016 et les dossiers de candidature devaient parvenir avant le 30 janvier 2017. Alors peut-être que vous avez reçu un délai supplémentaire pour déposer les dossiers. Voilà, c'est par rapport à la demande de subvention, voilà les questions que j'avais à poser.
Alors, en ce qui concerne les dossiers, d'après ce que m'a dit Yann, ils ont été déposés avant le 30 janvier 2017. Alors, pour 2014, je n'ai pas trop de chiffres à vous donner, mais pour 2015, il faut savoir que l'APM a réalisé une relecture de 67 heures à la demande de la gendarmerie, de la police nationale. Et quand je dis gendarmerie, ce n'est pas la gendarmerie d'Orange ou de Sainte-Cécile, c'est toutes les gendarmeries alentour. La police nationale, ce n'est pas Orange, c'est de très grandes villes, notamment Marseille, par exemple la PJ de Marseille, qui nous a demandé de faire de la relecture pour une affaire qu'ils avaient sur la région et dont les auteurs sont sûrement passés par Camaret. Pour 2015, le taux d'élucidation est de 32% pour les services de police et de gendarmerie. Et pour 2016, je ne peux pas vous donner de chiffres puisque nous ne les avons pas eus par la gendarmerie. Mais sachez que la relecture est 131 heures de relecture par mon service, par la police municipale, et que grâce à la vidéosurveillance et protection, 4 individus ont été interpellés en flagrant délit par les services de police. Voilà.
Mais, excusez-moi. Oui, mais là, vous me faites un bilan, effectivement, un bilan par rapport à la mise en place de la vidéoprotection, mais moi, je vous parle du bilan qui doit accompagner les aides dans le cadre de ce fonds interministériel. C'est-à-dire il y a plusieurs actions à mener au niveau de la jeunesse, au niveau des problèmes de violence, au niveau de problèmes de délinquance sur la commune. Moi, c'est la question que je pose. Parce que ça, effectivement, ça, on pratique...
La vidéo, elle n'est pas là pour faire de la protection.
Mais je ne vous parle pas de la vidéo. Mais par rapport...
On parle de la vidéo.
Mais monsieur, je pense, voilà. Là, je parle simplement de financement lié à la mise en place donc de la vidéoprotection, les aides financières.
Alors, je voudrais préciser qu'il n'y a rien de nouveau par rapport aux précédentes installations de caméras de vidéosurveillance auxquelles nous avons procédé. Il y a une nouveauté, c'est justement l'intervention de la région. Alors effectivement, bien entendu, vous l'avez compris, peut-être, nous avons reçu de leur part l'assurance que nous avions quelques jours de délai par rapport à la date du 30 juin. Hein, voilà, on leur a expliqué, 30 janvier, on leur a expliqué que le conseil municipal, c'était le 2 février. Ils ont tout à fait accepté ces quelques jours supplémentaires de délai. En ce qui concerne les actions à mener, il faut savoir qu'aussi bien le principe de l'équipement des caméras de vidéosurveillance que les différentes implantations que nous indiquons dans la délibération ont été vues en étroite collaboration avec la gendarmerie de Sainte-Cécile. Donc il s'agit de à la fois de prévenir la délinquance et effectivement, comme cela a été dit par Jean-Luc Dacosta, les caméras ont participé à l'élucidation d'un certain nombre d'affaires. À la demande, effectivement, de diverses forces de police ou de gendarmerie, quelquefois extérieures au département. Il n'y a rien de spécialement nouveau en ce qui concerne les actions à mener. Je crois que le principe même de la prévention, de la dissuasion, ça se suffit à soi-même, sans compter ensuite, une fois que l'infraction a été quand même commise, la participation à l'élucidation des affaires.
Oui, mais... Vous répondez toujours pas à ma question, mais c'est pas grave. Je reformulerai la question autrement la prochaine fois. Merci.
Bien. Écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Thibault, Monsieur Arcusé. Je vous remercie. La délibération est adoptée à la majorité. Dossier numéro 2. frais d'enlèvement des véhicules pour stationnement gênant ou en état d'épave situé sur le domaine public. Rapporteur Lionel Muret.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, aux articles 325 et suivants du Code de la route, la fourrière relève de l'autorité du maire qui en désigne le gardien sur la liste des gardiens agréés par le préfet si le local ou le terrain appartient à la commune ou si elle en dispose. En absence de terrain communal et de local à disposition par délibération du 3 mars 2016, la commune a établi une convention d'enlèvement de véhicules en stationnement gênant ou en état d'épave situé sur le domaine public avec la société d'exploitation Magic Auto. Il est proposé de mettre à la charge des propriétaires identifiés les frais de prise en charge et le transport du véhicule concerné, ainsi que les autres frais annexes que la société Magic Auto pourrait facturer pour son intervention. Ces sommes seront recouvertes par émission d'un titre exécutoire de paiement à l'encontre du propriétaire du véhicule identifié. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à la charge du propriétaire identifié du véhicule en stationnement gênant ou en état d'épave, les frais de prise en charge et de transport du véhicule concerné ainsi que les autres frais annexes, d'approuver la perception par émission de titre exécutoire de paiement, d'autoriser M. le maire à signer tout document en ce sens. Les recettes correspondantes sont inscrites à l'article 758 du budget principal.
Y a-t-il des questions ? Madame Thibault ?
Oui. Je voulais savoir ce qui changeait par rapport à la délibération de 2016 qui comprenait donc qui concernait l'approbation d'une convention d'enlèvement de véhicules. Donc aujourd'hui, quelle est la différence par rapport à cette délibération ?
Là, ce qui est modifié, c'est la possibilité de pouvoir faire prendre en charge par les propriétaires des véhicules divers frais, notamment les frais d'enlèvement et les frais des annexes.
C'est déjà, ça figurait,
je vais vous expliquer.
Les ça, frais, ça figurait voilà, déjà dans la convention d'enlèvement.
Voilà, les frais supplémentaires. Il faut savoir que dans le code de la route, il est prévu qu'au bout de 45 jours, si le propriétaire du véhicule n'est pas identifié, on procède à la destruction de véhicule. Donc, destruction de la carte grise, les frais qui peuvent être occasionnés pour ce genre de choses sont les frais qui sont mentionnés ici.
D'accord. Donc, ça complète la délibération qui a été prise l'année dernière.
Voilà.
Donc,
l'additif.
D'autres questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 3, acquisition d'un tableau, rapporteur Elvire Théoki.
À la suite d'une exposition sur la commune en 2016 à la chapelle Saint-Andéol, la municipalité a émis le souhait d'acquérir un tableau intitulé « Camaret sous la neige », peint par une artiste locale, Madame Kilian Monique. Ce tableau représente le Ravelin par temps d'hiver. Il sera exposé à l'hôtel de ville. L'acquisition se fera pour un montant de 150 euros à régler directement à l'artiste. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition par la commune du tableau Camaret sous la neige et le règlement de 150 euros à l'artiste, Madame Kilian Monique, domiciliée 267B, rue Alphonse Daudet, à Camaret-sur-Aigle, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document en ce sens. La dépense sera inscrite à l'article 2168 du budget principal.
Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention de Madame Thibault et de Monsieur Arcusé. Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Dossier numéro 4, forfait communal pour les classes de découverte et les sorties pédagogiques, versement d'un acompte, rapporteur Jean-François Leroy.
Conformément aux articles L442-5 et R442-44 du Code de l'éducation nationale, qui précise que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celle des classes correspondantes de l'enseignement public pour les élèves domiciliés sur leur territoire. Considérant que les sorties pédagogiques et classes de découverte des écoles publiques sont organisées sous couvert de l'amicale laïque, considérant que les sorties pédagogiques et classes de découverte de l'école privée Saint-Andéol sont organisées sous couvert de l'appel Saint-Andéol, considérant que l'équité entre les écoles publiques et privées sur la commune implique de ne prendre en considération pour l'école Saint-Andéol que les élèves résidant sur Cameray-sur-Aigue et âgés de plus de 3 ans. Considérant la nécessité de préciser que les modalités d'attribution des aides aux classes de découverte et sorties pédagogiques. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver pour les classes de découverte l'attribution d'un forfait annuel de 15 euros par nuitée et par élève dans la limite de 4 nuitées et d'une classe par groupe scolaire, soit un versement total de 60 euros par élève, sur présentation d'un état des frais réellement engagés. D'approuver pour les sorties pédagogiques l'attribution d'une enveloppe de 30 euros maximum par élève répartie à hauteur de 5 euros par sortie et de 2,50 euros par intervention sur présentation d'un état des frais réellement engagés. D'autoriser Monsieur le maire à verser un acompte à hauteur de 60% de la subvention attribuée l'année précédente à l'amicale laïque ou à l'appel. Les crédits correspondants seront inscrits en section de fonctionnement à l'article 6574 du budget principal 2017. Il est précisé que le versement du solde des subventions concernées fera l'objet d'une décision ultérieure et après production des états réalisés.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 5, lieu d'accueil enfants-parents, renouvellement de la convention d'objectifs et de financement de la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse, rapporteur Jean-François Lagier. Jean-François Leroy.
À la place d'Émilie Lagier.
On va couper ça au...
Lieu d'accueil enfants-parents, renouvellement de la convention d'objectifs et de financement de la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse. Le lieu d'accueil enfants-parents a ouvert ses portes le 1er mars 2010 et a intégré les nouveaux locaux de la Maison pour tous le 9 janvier 2012. Ce lieu est adapté à l'accueil des jeunes enfants âgés de moins de 4 ans accompagnés d'un adulte référent, parents, grands-parents, en présence de professionnels accueillants, salariés et ou bénévoles, garant des règles spécifiques à ce lieu. Chaque accueil est assuré par 2 accueillants minimum. Ce lieu respecte la confidentialité et l'anonymat. Sa fréquentation est libre et gratuite. La progression de la fréquentation est nette avec une moyenne de 6 enfants et 5 adultes par séance. Selon le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, le nombre d'enfants accueillis en moyenne est de 8,47 par séance, quel que soit le lieu d'implantation du LAP. On compte 46 familles accueillies en 2015. Le nombre de séances est réparti comme suit, 63 séances en 2013 et 2014, 64 séances en 2015 et 66 en 2016. D'après le rapport de l'IGAS, numéro RM 2013-015P, les 3/4 des LAP ne disposent d'aucun bénévole et 60% d'entre eux fonctionnent avec moins de 5 accueillants. Le LAP de Cameray-sur-Aigue se différencie des autres lieux par le nombre de bénévoles accueillants, 7, et par le nombre total de ses accueillants, 9. Et les accueillants sont issus des professions de la petite enfance, pour 7, 3 sont des travailleurs sociaux, comme dans la plupart des LAP. La convention d'objectifs et le financement qui engageait la caisse d'allocation familiale de Vaucluse et le LAP de Cameray-sur-Aigue est arrivée à échéance le 31 décembre 2016. Afin de prolonger ce partenariat, la CAF de Vaucluse propose un nouveau contrat jusqu'au 31 décembre 2019. Cette convention précise les engagements réciproques de la CAF et du LAP et notamment les modalités de calcul et de versement de la prestation de service. Le montant de la prestation de service est calculé comme suit. Bon, alors, on va essayer. Prix de revient limité au plafond du CNAF fois 30%, le tout multiplié par le pourcentage du régime ouvrant droit fois le nombre d'actes ouvrant droit. J'espère que tout le monde aura compris. Pour l'activité 2015, le montant de la prestation de service est élevé à 4 176 euros. La prestation de service attendue pour 2016 est estimée à 4 229 euros et 4 centimes. Cette convention fera l'objet d'un suivi réalisé en concertation entre la CAF de Vaucluse et la commune, gestionnaire de la structure. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs, ci jointe, et le financement qui lie la caisse d'allocation familiale de Vaucluse au lieu d'accueil enfants-parents de Camaret-sur-Aigle pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. D'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tout y document afférent. Y a-t-il des questions ? Vous avez la convention qui est mise après et qui est identique à ce qui avait été pratiqué avant.
Merci. Donc, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 6, toujours le LAEP, convention de prestation de services, accueil temporaire, avec la Mutualité sociale agricole, Alpes-Vaucluse, rapporteur Jean-François Leroy.
C'est la même chose, mais pour la MSA. Lieu d'accueil enfants-parents, convention de prestation de services, accueil temporaire avec la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Le lieu d'accueil enfants-parents a ouvert ses portes le 1er mars 2010, je vous le rappelle, a intégré les nouveaux locaux de la Maison pour tous le 9 janvier 2012. Ce lieu est adapté à l'accueil des jeunes enfants de 4 ans. Et je ne sais pas si tu relis toute la... c'est la même chose, hein, mais pour l'autre prestataire qui est la MSA. Le module de calcul est légèrement différent, je voulais dire. Considérant que la participation financière de la MSA après Alpes-Vaucluse aux frais de fonctionnement du LAP de la commune est calculée par rapport au taux départemental moyen de la population agricole de 5%, le mode de calcul est le suivant. PS unitaire CAF fois nombre d'heures annuelles de fonctionnement fois 5% taux allocataire agricole. Les heures annuelles de fonctionnement comprennent le temps d'accueil et le temps d'organisation plafonné à 50% du temps d'accueil. Considérant que la prestation de service MSA sera versée par la commune de Camaret-sur-Aigle en une seule fois au cours du dernier trimestre pour l'année N-1 après une connaissance de la prestation CAF. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de prestation de service accueil temporaire qui lie la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse au lieu d'accueil enfants-parents de Camaret-sur-Aigle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Une légère différence, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que tout document y afférent. Vous avez la convention si joint tout ça. Pas de questions ? Merci.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 7, relais d'assistance maternelle, d'assistante maternelle, convention de prestation de services, accueil temporaire, avec la Mutualité sociale agricole, Alpes-Vaucluse, rapporteur Jean-François Leroy.
Relais d'assistante maternelle, convention de prestation de services, accueil temporaire avec la Mutualité sociale agricole, Alpes-Vaucluse. Le relais parents-assistante maternelle de Camaret-sur-Aigle, RAM, a pour vocation d'informer les parents et les professionnels de l'accueil individuel à domicile et d'offrir un cadre de rencontres et d'échanges et des pratiques professionnelles. Il est animé par un agent qualifié, éducatrice de jeunes enfants, et est ouvert aux parents et aux professionnels de l'ensemble des communes adhérentes à la communauté de communes Aigle ou Vaise en Provence. Cette structure fait l'objet d'un subventionnement de la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse et de la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Il convient de renouveler la convention de prestation de services accueil temporaire avec la MSA Alpes-Vaucluse pour la période du 1er janvier 2016, je crois que c'est 2017, au 31 décembre 2020. Vu la circulaire de la CNAF du 27 juin 1989 relative à l'accueil des enfants par les assistantes maternelles, préconisant en matière d'accueil à domicile le soutien de structures dénommées relais assistantes maternelles RAM. Vu la création d'un relais assistante maternelle à Camaret-sur-Aigle le 25 février 2010, vu la décision du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole du 8 septembre 2006, vu la convention de prestation de services entre la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse et la commune de Camaret-sur-Aigle en date du 16 juin 2016, considérant que la participation financière de la MSA Alpes-Vaucluse aux frais de fonctionnement du RAM de la commune est calculée par rapport au taux départemental moyen de population agricole de 5%, Le mode de calcul est le suivant. PS unitaire CAF fois le nombre d'équivalents temps plein RAM fois 5% du taux allocataire agricole. Considérant que la prestation de service MSA sera versée à la commune de Camaret-sur-Aigre en une seule fois au cours du dernier trimestre pour l'année N-1 après connaissance de la CAF. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de prestation de service accueil temporaire qui lie la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse au relais assistante maternelle de Camaret-sur-Aigre du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, d'autoriser Monsieur le maire à la signer la dite convention ainsi que tout document y afférent.
Merci bien. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.
Excusez-moi, la commune de Pleurin n'adhère toujours pas.
Non. Donc dossier numéro 8, convention de mise à disposition de locaux avec l'UCAV. Rapporteur Elvire Théoki.
L'Union camarétoise des commerçants, artisans et vignerons, l'UCAV, a pour objet de dynamiser le village, de faire connaître les entreprises et les commerces, notamment par des animations. La commune de Camaret-sur-Aigre souhaite soutenir l'association dans la poursuite de ses objectifs en mettant gratuitement à sa disposition les locaux de l'ancienne tripostale 6 place de la Poste à Camaret-sur-Aigre. Vu l'article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt de mettre à disposition gracieuse des locaux communaux pour la bonne organisation de l'action menée par l'Union camarétoise des commerçants, artisans et vignerons, il est demandé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention de mise à disposition des locaux de l'ancien centre de tri de la Poste à conclure avec l'UCAV, d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention et tout document s'y afférent.
Merci. Voilà, ça fait un certain temps déjà que l'UCAV demande des locaux, non seulement pour travailler en toute tranquillité, mais aussi pour entreposer pas mal de matériel, d'où cette dévolution des locaux de l'ancien centre de tri de la Poste, qui sont de toute façon inaptes à beaucoup de choses, en particulier à toute utilisation du public, sans, à moins de faire beaucoup de frais. Voilà pourquoi nous proposons de leur allouer ce local, qui auparavant était occupé par une association humanitaire. Madame Thibault.
Oui, c'est la question que je voulais poser, s'ils partageaient le...
Non.
Le local avec l'association Le Sourire d'un Enfant, d'ailleurs.
Voilà, l'association précédente a cessé ses activités, donc les locaux étaient redevenus libres. Voilà, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 9. Modification du périmètre des zones soumises au droit de préemption urbain. Par délibération en date du 24 mars 2004, le Conseil municipal a institué le droit de préemption urbain sur toutes les zones U et NA figurant au POS. Par délibération en date du 13 décembre 2016, le Conseil municipal a approuvé la révision du POS valant élaboration du plan local d'urbanisme, PLU. Le périmètre des zones urbaines ou d'urbanisation future ayant subi des variations impliquées par l'évolution du document d'urbanisme, il convient de modifier corrélativement le champ d'application territorial du droit de préemption urbain. Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à une actualisation du périmètre d'application du droit de préemption urbain en cohérence avec le zonage du PLU. Il est demandé au Conseil municipal d'instituer le droit de préemption sur toutes les zones U et AU du PLU, de préciser que conformément aux articles L211-1 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une publication dans 12 journaux locaux diffusés dans le département, d'une transmission au directeur départemental des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au barreau et au greffe du tribunal de grande instance d'Avignon. Par ailleurs, un registre de préemption sera ouvert et la présente délibération sera transmise à Monsieur le préfet de Vaucluse pour l'exercice du contrôle de la légalité et ne sera exécutoire qu'après l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité ci-dessus énumérées. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document référent à ce dossier. Alors en fait, il s'agit tout bonnement et tout simplement d'une transposition au PLU du droit de préemption qui est figuré déjà dans le POS. Et à titre indicatif, je pense que ça intéressera tout le monde, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre nouveau PLU, qui a été adopté à l'unanimité, est purgé à ce jour de tout recours des tiers. Nous n'avons eu aucun recours des tiers concernant ce nouveau PLU. Y a-t-il des questions ? Eh bien, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 10. Adhésion de la communauté de communes Aigouvaise en Provence au SCOT du bassin de vie d'Avignon. Alors, je vais peut-être vous passer tous les visas. Considérant que la communauté de communes Aigouvaise en Provence doit adhérer à un SCOT de par l'exercice de ses compétences statutaires et par les exigences de la loi, considérant que le périmètre d'un SCOT permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipement, de logement, d'espaces verts, de services et d'emploi. Considérant que le périmètre d'un SCOT doit également prendre en compte les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacement urbain, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs. Considérant l'article L143-6 du même code qui précise que l'autorité administrative compétente de l'État arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu réponde aux critères mentionnés au premier alinéa de l'article L143-3 et permettent la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacement et d'environnement. Vu les échanges de courriers entre le président et monsieur le préfet de Vaucluse, et notamment le courrier de monsieur le préfet en date du 19 septembre 2016, vu qu'il ressort de ces échanges de correspondance que la communauté de communes n'a plus d'autre choix que celui de l'adhésion au SCOT du bassin de vie d'Avignon. Vu la délibération numéro 2016-79 en date du 8 décembre 2016 de la CCAOP relative à l'approbation du choix du périmètre du schéma de cohérence territoriale, considérant l'article L5214-27 du Code général des collectivités territoriales, précisant que l'adhésion à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création d'un EPCI, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la communauté de communes Aigouvaise en Provence au SCOT du bassin de vie d'Avignon, de demander que la communauté de communes Aigouvaise en Provence soit intégrée, comme cela est indiqué dans la proposition d'armature du PADD du SCOT, dans la polarité de secteur du bassin de vie d'Orange, d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à cette adhésion. Y a-t-il des questions ? Eh bien, dans ces conditions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Renouvellement de l'adhésion au service hygiène et sécurité, centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. La commune de Camaret adhère au service hygiène du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Ce service est constitué de préventeurs en santé et de sécurité au travail qui tiennent les fonctions d'agent chargé de la fonction d'inspection, acteur obligatoire pour toute collectivité territoriale. Cette adhésion permet à la collectivité de bénéficier d'un accompagnement en prévention des risques professionnels dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, telle qu'elle résulte de l'application du décret numéro 85-603 du 10 juin 1985 modifié. Par délibération en date du 19 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la convention d'adhésion au service hygiène du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et plus particulièrement son article 6 qui prévoit le renouvellement de ladite convention par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par l'une ou par l'autre des parties, selon un préavis d'un mois avant chaque échéance annuelle. Un taux de cotisation additionnel de 0,07% et une participation financière forfaitaire annuelle de 150 euros décidée par le conseil d'administration du CDG 84 et qui pourront être amenées à évoluer. Considérant le courrier adressé par Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse en date du 1er décembre 2016, informant à la collectivité de Camaret que le conseil d'administration du CDG 84 en séance du 30 novembre 2016 a décidé de maintenir le taux de cotisation annuelle de 0,07% et de porter la participation financière forfaitaire annuelle à 450 euros, il est demandé au conseil municipal d'accepter le renouvellement de l'adhésion au service hygiène du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse dans les conditions prévues à l'article 6, d'accepter de payer la participation au titre de l'exercice 2017 aux frais de fonctionnement du service ainsi qu'il suit, taux de cotisation additionnel à 0,07%, une participation financière forfaitaire annuelle de 450 euros. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte et document nécessaire à cette adhésion. Y a-t-il des questions ?
0,07 de quoi ? Sur quelle base ? Taxe additionnelle de 0,07. Écoutez, c'est la terminologie du conseil départemental du centre de gestion. Ce qui change là, effectivement, vous le voyez, c'est surtout l'adhésion, le taux de la participation financière. C'est une partie de la rémunération qui ne change pas, qui est la même depuis plusieurs années. Voilà, une part forfaitaire d'adhésion et une part au pourcentage. Voilà. Donc là, ce qui change, c'est 300 euros en plus. Ça peut paraître une grosse augmentation de 150 à 450 euros, mais le service rendu est important puisque notamment cette convention nous a permis de mettre en place dans de bonnes conditions le document unique, de mettre à jour le document unique des libérations suivantes, sachant que c'est une mission qui prend beaucoup de temps. Et on aurait fait appel à un bureau privé, autre que le service du centre de gestion. Je crois que ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Et le travail a été vraiment fait, on pourra en parler après au moment de la délibération du document unique, a été fait très sérieusement avec une bonne complémentarité avec les services municipaux.
La cotisation, en fait, au CDG, c'est en fonction du nombre d'agents.
Oui, c'est ça, basé sur les salaires.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 12. Approbation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Considérant qu'il appartient à l'autorité territoriale de réduire, voire supprimer, les risques afin d'assurer la sécurité des agents et de protéger leur intégrité physique, que l'autorité territoriale doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le Code du travail, compte tenu des activités exercées, l'autorité territoriale doit ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en œuvre des actions de prévention. La collectivité de Camaret s'est engagée dans une politique de santé et de sécurité au travail et a exprimé sa volonté de faire de l'évaluation des risques professionnels une démarche participative en offrant à chaque agent l'opportunité de s'exprimer sur les risques auxquels il se sentait exposé dans le cadre de ses activités. L'autorité territoriale a, par la nomination de 2 assistants de prévention, permis le renforcement des équipes qui sont intervenues dans la mise en œuvre de cette démarche très chronophage, dont le bilan est présenté aujourd'hui. Donc, les acteurs du document unique sont Madame Anta pour la CFI, les membres du CTP et du CHSCT, les assistants de prévention, Madame Baillet et Monsieur Magnan, l'assistance de Sandrine Follet pour le suivi et la mise en forme, avec pour expert le docteur Fabre de l'AIST d'Orange. La composition du comité de pilotage, au niveau élu M. Antonio Muga, le DGS M. Yann Bali, la directrice de la crèche Mme Betty Baillet, la correspondance ressources humaines Sandrine Follet, correspondance service technique Jérôme Magnan. L'émission, procéder au découpage des unités de travail, planifier la démarche, constituer un ou plusieurs groupes de travail, informer, sensibiliser les référents, les chefs de service et les agents, valider le travail des groupes. Effectuer, valider la cotation, proposer des actions de prévention, proposer une priorisation des actions, proposer une méthodologie pour mesurer l'efficacité des actions entreprises, réaliser le suivi du plan d'action de prévention des risques professionnels. Donc unité de travail et leurs référents, pour un effectif global de 84 agents répartis en 16 unités de travail. Pour Sandrine Follet, tout le service administratif et accueil, bibliothèque, Jean-Jacques Quintard, police municipale, Wilfried Bricourt, CCASPIG, PIJ, l'animation, avec le CLSH, le club ado, l'étape. Jérôme Magnan, les manifestations, l'atelier, bâtiment, voirie, espace vert, entretien des abords, focardage, suivi de chantier. Monsieur Bortolotti, entretien des locaux. Pour David Granger, la cuisine centrale. Betty Baillet, crèche, RAM, ATSEM. Les principaux risques qui ont été constatés. Risque incendie, explosion dans plusieurs unités de travail. Manipulation d'extincteurs, manque de formation, absence d'exercice d'évacuation. Risque de chute de hauteur, par exemple taille aux espaces verts, suivi de chantier, proximité des tranchées, mezzanine de stockage au service technique. Risque d'agression, ça c'est la police municipale en particulier. Risque bruit, ATSEM, animation, cuisine centrale. Risque lié à la manutention ou port de charge pour les services techniques, les ATSEM. Tout ceci, bien sûr, n'est pas exhaustif. Les actions engagées en 2016. Mise à disposition d'une trousse de secours dans les véhicules. Mise à disposition d'une trousse de secours aux pharmacies dans les différents services. Acquisition de Norvégiennes à roulettes. Dotation d'EPI et de tenues d'été et d'hiver. Formation hygiène et sécurité engagée en 2016. Eh bien, nous avons eu la formation de 2 assistants de prévention, une formation aux gestes et postures pour les services techniques, les ATSEM, la crèche, le service entretien, une formation aux risques électriques pour les services techniques, la crèche, la cuisine centrale, une formation hygiène et sécurité en restauration collective, les actions de prévention programmées en 2017. Nous aurons une formation à la manipulation des extincteurs et une formation à la réalisation d'exercices d'évacuation. Réalisation et mise en place de plans d'évacuation, acquisition d'une remorque à plateau basculant, rénovation de l'éclairage des services techniques, actions matérielles qui pourront être programmées au vu du document unique. Vu l'avis favorable à l'unanimité du CHSCT de la commune de Camaret en date du 16 décembre 2016, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver le document unique afin de pouvoir continuer la démarche et valider le plan d'action réalisé selon les axes prioritaires définis. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le document unique ainsi que les axes prioritaires proposés afin de permettre la mise en œuvre de plans d'action, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Voilà, y a-t-il des questions? Alors, je regrette l'absence de M. Miga, mais qui est malade, parce que c'est quand même lui qui a beaucoup œuvré pour la mise en œuvre de ce document unique, avec la participation des personnes que j'ai citées. Ça a été un travail vraiment de longue haleine, qui a été fait très très minutieusement, à partir notamment d'expériences malheureuses que nous avons vécues depuis plusieurs années. Donc le document unique propose de remédier à un certain nombre, propose d'éviter un certain nombre de risques. Y a-t-il des questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 13. Renouvellement de postes dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir. Le maire expose aux membres de l'Assemblée que le dispositif des emplois d'avenir visant à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires, prévoit une formation qualifiante. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l'attribution d'une aide de l'État et de la région liée à l'engagement de la collectivité en matière d'accompagnement du jeune, compte tenu du poste, tutorat, formation, etc. La commune de Camaret a inscrit un contractuel au centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Vaucluse pour suivre une formation qualifiante CAPA, jardinier paysagiste, du 3 janvier au 6 juin 2017. Le montant de la formation s'élève à 5 098 euros, dont 5 000 seront pris en charge par la région. Le contrat emploi d'avenir se termine le 31 janvier 2017. Vu le budget de la commune, considérant la politique sociale de la commune, oui, la proposition de M. le maire de prolonger un emploi d'avenir dans les conditions suivantes. Profil, un poste d'agent polyvalent des services techniques, spécialité espace vert. Durée des contrats du 1er février 2017 au 6 juin 2017. Durée hebdomadaire de travail 35 heures. Rémunération SMIC horaire. Prise en charge du reliquat de la formation par la commune 98 euros. Et de l'autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la mission locale et des contrats de travail à durée déterminée avec la personne qui sera prolongée. Il est demandé au conseil municipal de prolonger un poste dans le cadre du dispositif emploi à venir dans les conditions suivantes. Voilà, tout ça je l'ai déjà dit. D'autoriser monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ce dossier. Y a-t-il des questions? Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 14. Création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité aux services techniques. Vu l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'un agent non titulaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint technique territorial, oui, la proposition de M. le maire de créer ce poste d'adjoint technique territorial, il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer le poste suivant pour un accroissement temporaire d'activité, un poste d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service technique. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 12 du budget principal de la commune. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, nous passons aux deux dossiers que nous avons rajoutés à l'ordre du jour. Le premier d'entre eux, c'est celui qui concerne la redevance d'occupation du domaine public. Rapporteur, M. Auriac.
Donc cette redevance, on va passer les articles, vu le code. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d'occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'application des tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d'occupation du domaine public routier due par les opérateurs de télécommunications, à savoir pour l'année 2016, 51,74 € par kilomètre et par artère en aérien, 38,81 € par kilomètre et par artère en souterrain, 25,87 € par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques, cabines notamment, et armoires. De revaloriser, si nécessaire, chaque année, ces montants en fonction de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l'indice général relatif aux travaux publics. D'approuver l'inscription chaque année de cette recette au compte 70-323. D'autoriser le recouvrement de ces redevances en établissant un état déclaratif annuel ainsi qu'un titre de recette. Des questions ? Merci.
Alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Deuxième dossier supplémentaire, motion de soutien au personnel du centre hospitalier d'Orange. L'accès à un service public de soins de proximité et de qualité est un droit fondamental auquel sont indéfectiblement attachés les Français. La qualité des soins est étroitement dépendante de la compétence, de la disponibilité et du dévouement du personnel médical. Par conséquent, le personnel soignant n'est pas une variable avec laquelle il est possible de faire des ajustements financiers. Considérant que l'Agence régionale de santé a programmé la suppression de nombreux postes de personnel soignant au centre hospitalier d'Orange et que ces suppressions contraignent les personnels à augmenter leur amplitude de travail au détriment de la qualité des soins aux patients, considérant que cette réduction d'effectifs menace à terme l'existence même des services de chirurgie et de maternité d'une part, et que cette fermeture obligerait les Hauts-Vauclusiens à se faire opérer à Avignon, réduisant leurs chances de guérison d'autre part, vu le Code général des collectivités territoriales, il est demandé au Conseil municipal d'exiger le maintien des postes menacés de disparition par l'ARS, de réaffirmer sa volonté de maintenir un centre hospitalier généraliste et de proximité dans le Haut-Vaucluse avec une offre de soins de qualité. De demander à Madame la ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine, d'intervenir de toute urgence auprès de l'ARS pour qu'elle revienne sur les suppressions de postes envisagées. De partager avec les habitants du Nord-Vaucluse leur inquiétude face aux menaces de fermeture partielle du centre hospitalier d'Orange. D'assurer le personnel soignant du centre hospitalier d'Orange de son soutien total et sans faille. De dire que cette motion sera adressée à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mesdames et Messieurs les parlementaires de Vaucluse, Monsieur le préfet de Vaucluse, Monsieur le président de l'Agence régionale de santé. Voilà donc, j'ajoute que devant cette réelle menace, à la fois pour un service public de proximité et de qualité, à côté de Camaret, donc à quelques kilomètres à Orange, je me suis, ainsi que d'autres élus du conseil municipal et de communes voisines, donc nous sommes engagés auprès du personnel qui a manifesté la semaine dernière massivement, donc encore une fois, pour essayer d'alerter l'opinion publique sur la fermeture malheureusement programmée d'un certain nombre de services à l'hôpital d'Orange qui nous paraît tout à fait inadmissible. Y a-t-il des questions, des commentaires ? Alors je mets aux voix la motion. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci pour eux et pour le service public. Vous avez aussi reçu l'état des déclarations d'intention d'aliénés ainsi que l'état des décisions du maire. Y a-t-il des questions à ce propos ?
Pas de questions. Y a-t-il des questions diverses? Maître. Prends le micro, s'il te plaît.
Est-ce qu'on pourrait intervenir auprès des instances supérieures de la poste? Parce que le samedi matin ou même les autres matins, la personne se trouve toute seule. Le samedi, il y a 15 jours, il y avait 8 ou 10 personnes dans le bureau. Les gens attendaient dehors. Heureusement, une personne de la poste qui était là, qui venait, a dépanné la postière qui était là. Elle n'y arrive pas. Je pense qu'il faudrait vraiment faire quelque chose, c'est plus possible. Parce que là, la personne qui est là, elle se fait engueuler et elle nuit et rien. En plus de ça, le courrier arrive vers 9h30. Les recommandés ne sont pas prêts parce qu'on leur livre qu'à ce moment-là. Et on va chercher les recommandés à 10h15 et amener le courrier à midi. Là, il y a un véritable problème sur Terminal.
Oui, c'est une remarque tout à fait pertinente.
Nous nous sommes trouvés avec. Mon collègue là-bas dans le bureau, on a vu ce qui se passait et il dira le reste.
Voilà. En effet, car vous le savez sans doute, la Poste dans le secteur a procédé à des réductions d'effectifs, donc réduction aussi de l'amplitude horaire. Et malheureusement, tout ceci au détriment de nos administrés. Donc effectivement, il y a bien souvent plus qu'une seule personne pour servir les usagers. Donc nous allons effectivement intervenir dans ce sens, oui, je suis tout à fait d'accord.
Parce que la personne qui est derrière ne fait rien, oui. Elle se fait engueuler, c'est pas normal.
Tout à fait. Pas d'autres questions diverses? Alors il me reste à vous annoncer la date du prochain conseil municipal, donc qui aura lieu le 16 mars prochain. Et à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée.